écoutez Europe 1, il est 18h.
On a un salarié qui est en réanimation. On dit à un moment donné, on dit stop. Si on n'a pas de masque, on ne rentre plus travailler.
Les caissiers et caissières débrayent, pas suffisamment protégés. Deux cas dans le plus grand hypermarché Carrefour de France. Les salariés de Vitrolles exercent leur droit de retrait.
Comment mieux protéger les salariés qui travaillent, justement? La question ce soir au patron de la CPME, mon invité, juste après le journal.
Le Grand Est, toujours sous tension après l'Alsace, la Moselle. La directrice de l'hôpital de Metz-Thionville appelle au secours.
Si aujourd'hui je ne peux plus ouvrir de lit, que le même nombre de patients arrive tous les jours, je ne sais pas où je vais les mettre. Je suis dans une impasse.
Et aujourd'hui, de nouveaux transferts de malades ont eu lieu vers l'Allemagne et vers la Suisse.
Et on va justement s'intéresser à l'exemple allemand, nos voisins.
Et beaucoup moins de morts et beaucoup plus de tests de dépistage. Comment font les Allemands? Nous irons à Berlin. Dans ce journal aussi, les risques de la chloroquine, des complications chez des patients qui en ont pris chez eux.
Oui, Ève Roger nous expliquera tout ça dans les grandes voies à 18h30. Et puis, il continue de régler ses comptes avec l'équipe de France de football. Karim Benzema s'en prend à Olivier Giroud.
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1.
Voilà, ça vole très haut, bataille rangée sur les réseaux sociaux. La bourse de Paris en légère hausse ce soir, plus 0,6% à 4378 points.
Bonsoir Anissa, avec vous peut-être le retour du soleil.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Oui, le soleil y revient demain et ça se calme dans le sud parce que ce matin on a eu de très fortes chutes de neige dans le sud-ouest. Ça se calme demain avec un ciel toujours très nuageux, mais le temps reste sec. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Ils et elles font partie des héros de notre quotidien. Ils ne sont pas soignants, mais nous permettent de continuer à faire nos courses, de trouver aussi des produits dans les rayons. Les travailleurs du confinement, chauffeurs routiers ou encore employés de la grande distribution prennent eux aussi des risques. Aujourd'hui, ce sont les salariés de l'un des plus grands hypermarchés Carrefour de France qui ont débrayé à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Nathalie Chevance, vous êtes notre correspondante. Ils ont exercé leur droit de retrait parce qu'ils ne s'estiment pas suffisamment protégés.
Oui, à juste titre, car jusqu'à présent, les salariés n'avaient pas de masques fournis par l'enseigne, tout simplement parce que Carrefour n'en avait pas, les stocks étant réservés pour les soignants. Il a donc fallu bricoler. Depuis le début, les salariés viennent travailler avec leurs propres masques. Des vitres en plexiglas ont bien été installées devant les caisses, mais pour la distribution de gants ou de gel hydroalcoolique et la désinfection des locaux, là, les personnels estiment qu'il y a trop de défaillances, avec une multiplication de cas suspects ou avérés. Reda Longar est le représentant CGT du magasin de Vitrolles.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est 17 cas suspects et 7 cas avérés. Ça va très très vite. On a un salarié qui est en réanimation. On dit à un moment donné, on dit stop. Si on n'a pas de masque, on rentre plus travailler. Nous, on demande à ce que les chariots, les scanettes dans l'enceinte du magasin soient désinfectées toutes les heures, toutes les deux heures, au moins une fois par jour, ce qui n'est pas fait. C'est pas fait dans les règles. Le ministère du Travail préconise un nettoyage, une désinfection spécifique des sols, des points de contact avec un produit détergent laissé sécher, rincé, ce qui n'est pas du tout fait dans les règles de l'art.
On est une source à virus.
Alors sur ce point, la direction du groupe explique qu'une désinfection a été réalisée jeudi dernier, ce que conteste la CGT car d'après le syndicat, cette décontamination n'a commencé qu'aujourd'hui. Quant aux masques, 2 millions ont été reçus et sont en cours de livraison pour les personnels dans tous les magasins et entrepôts Carrefour.
Nathalie Chevance en ligne de Marseille, la France qui manque de masques de protection et qui s'approvisionne désormais en Chine. C'est un pont aérien qui a été lancé, première livraison hier. Un second cargo a atterri aujourd'hui à Vatry en Champagne avec à son bord 10 millions de masques. 4 rotations par semaine sont prévues, la France en a commandé 1 milliard.
Et le gouvernement qui réunissait justement aujourd'hui les acteurs économiques par visioconférence, organisation patronale représentant la grande distribution, l'agroalimentaire, le secteur agricole, comment assurer la sécurité à ceux qui travaillent? On en parle juste après le journal avec François Asselin qui dirige la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il participait à cette réunion.
Et on sait combien la situation économique des PME est difficile. Un fonds de solidarité a été créé. Elles pourront y avoir accès à partir de 50% de pertes de chiffre d'affaires au mois d'avril. Le seuil a été abaissé. C'était 70% pour le mois de mars. Et puis, il y a le chômage partiel massivement utilisé. 220 000 entreprises en ont fait la demande. Cela concerne désormais plus de 2 millions de salariés en France. L'État prend le relais pour payer les salaires. Emmanuel Dutheil, mais attention à ne pas en abuser non plus. C'est marginal, mais il semble que certaines entreprises en profitent un peu trop.
Oui, hein, on peut citer l'exemple d'une entreprise où tout le monde est passé à mi-temps au chômage partiel, mais où beaucoup de salariés continuent d'être à quasiment plein temps en télétravail. Et Didier Chenet, qui dirige le GNI, hein, qui regroupe des hôteliers et des restaurateurs, dénonce ces comportements.
Un tel comportement est inacceptable. Inacceptable, on ne peut pas aujourd'hui profiter d'une situation qui est suffisamment difficile. Le gouvernement, dans les mesures qu'il a prises, sont des mesures qui sont extrêmement importantes, qui permettent justement aux entreprises de ne pas licencier et de ne pas mettre au chômage définitif ses salariés.
En tout cas, sachez que vous risquez gros, tout écart est sévèrement réprimé. Le ministère du Travail vient justement de rappeler ce que l'on risque. Remboursement intégral, bien évidemment, des sommes perçues. Interdiction de bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans d'aide publique en matière d'emploi ou de formation professionnelle. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le ministère du Travail appelle le personnel à signaler tout manquement à cette règle.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Et pour soulager les services de réanimation les plus saturés, les transferts de malades s'accélèrent. Après les 2 TGV médicalisés affrétés ce week-end, aujourd'hui 3 hélicoptères de l'armée ont été mobilisés. 6 patients ont ainsi été emmenés de Strasbourg vers des hôpitaux en Allemagne et en Suisse.
Et le Grand Est est toujours particulièrement exposé. Hein. On a beaucoup cité l'Alsace, notamment Mulhouse, mais l'épidémie s'étend et c'est maintenant en Moselle que les autorités de santé appellent au secours. Pauline Jacquot.
Oui, ce soir, l'appel à l'aide vient du centre hospitalier de Metz-Thionville. La direction parle aujourd'hui d'une situation extrêmement urgente. L'hôpital ne peut plus ouvrir de lits supplémentaires. C'est ce que craignaient les soignants. Ça y est, les capacités maximales ont été atteintes en réanimation. Depuis ce matin, 100 lits sont ouverts pour ces patients, alors qu'il est 93 sont déjà occupés et les autres le seront dans les prochaines heures, prévient le centre hospitalier de Metz-Thionville. Il faut que les autorités nationales, le ministère de la Santé nous aide, alerte la directrice générale Marie-Odile Saillard.
Si aujourd'hui je ne peux plus ouvrir de lit, que le même nombre de patients arrive tous les jours, peut-être plus, puisqu'on nous dit que nous ne serions pas encore au pic. Je ne sais pas où je vais les mettre, je suis dans une impasse. Nous devons absolument, impérativement, de manière vitale, transférer, je dirais, 12 patients par jour pour répondre aux besoins de la population et en particulier, je dis bien, j'insiste bien sur cette question des lits de réanimation.
1 à 2 patients par jour sont envoyés vers l'Allemagne. C'est très régulier, souligne la direction, mais ça ne suffira pas. Il faut accélérer les transferts vers d'autres régions françaises. Pour le moment, en ce qui concerne ce centre hospitalier régional de Metz-Thionville, il y a eu plus de transferts de patients vers l'Allemagne que vers d'autres régions françaises.
Les précisions de Pauline Jacquot. Tension également en Corse. Nous y serons dans le journal de 19h. Et le débat continue autour de l'utilisation de la chloroquine comme potentiel traitement. Débat qui n'est plus seulement médical, mais qui est aussi devenu politique. Hein. Marine Le Pen, par exemple, appelle à généraliser ce médicament. On sait que le gouvernement ne l'autorise qu'à l'hôpital sous condition et pour cause, car on découvre que des patients qui l'ont pris chez eux en automédication ont subi des complications cardiaques. C'est l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui alerte. Écoutez le docteur Gilles Osemi.
Nous avons été informés par des centres hospitaliers de quelques cas de troubles du rythme cardiaque graves en relation avec des automédications. C'est les remontées du médecin hospitalier. On voit un patient qui arrive avec donc une infection à Covid-19, vous savez qu'on peut le diagnostiquer. Et la deuxième chose, vous savez, quand quelqu'un fait une torsade de pointe, on pense la plupart du temps à une origine médicamenteuse. Donc il suffit d'interroger les personnes pour avoir l'utilisation du ou des produits et la manière dont ils les ont pris. Ils ont terminé aux urgences et puis dans un service de cardiologie. Voilà, les choses se sont pour l'instant effectivement bien passées et c'est heureux, mais il peut y avoir des issues qui sont moins heureuses, qui n'arrivent pas forcément jusqu'à l'hôpital. C'est quand même un élément d'alerte qui est extrêmement important pour nous. Il est de notre devoir de dire à la population, attention, ce produit pris indépendamment de toute surveillance est susceptible d'entraîner des effets secondaires potentiellement très graves, voire fatales.
Un propos recueilli par Stéphane Place. Et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir pour répondre à vos questions. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
Alors reprécisez-nous bien les choses. Pourquoi cela n'est pas anodin? Pourquoi cela peut être dangereux de prendre de la chloroquine? Et dans quelles conditions aujourd'hui ce médicament peut être utile?
Alors la chloroquine, c'est un vieux médicament qu'on utilise justement dans le traitement du paludisme et on pense que sous la forme d'hydroxychloroquine, le plaquenil, ça pourrait traiter le coronavirus. Attention, ce traitement peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des arythmies sévères et le problème c'est que dans le protocole tel qu'il est proposé par le professeur Raoult, c'est qu'on doit l'associer à un autre antibiotique qu'on appelle l'azithromycine qui appartient à la famille des macrolides qui lui aussi peut augmenter le risque de troubles du rythme, ce qui veut donc dire que l'association des deux médicaments peut augmenter ce risque et par conséquent qu'il est impératif d'avoir une surveillance médicale stricte lorsque vous avez le traitement avant de commencer les médicaments, pendant et un petit peu après, ce qui veut donc dire que vous ne devez absolument pas prendre ce traitement un petit peu à la volée sans avis médical. Vous vous exposez à des risques majeurs et d'autant plus que pour l'instant, ce médicament n'est pas disponible en ville. Il est inutile de le demander aux pharmaciens. Il n'y en a plus. C'est simplement pour les formes sévères, hospitalisées ou en réanimation.
Merci docteur Jimmy Mohamed. On va vous retrouver hein, d'ailleurs tous les jours sur Europe 1. Ce rendez-vous, l'émission santé à 15h, Mélanie Gomez. Et avec nous le soir, toutes vos questions sur le hashtag Radio Ouverte.
Et on va maintenant s'arrêter sur le manque de tests de dépistage qui pose question depuis plusieurs jours maintenant en France. Et il est particulièrement intéressant de regarder l'exemple allemand parce que les chiffres sont frappants. En France, on réalise à peine 12 000 tests par jour. En Allemagne, c'est 6 ou 7 fois plus, 1,5 million par semaine. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin. Comment l'Allemagne y parvient-elle ?
Tout d'abord, l'Allemagne a commencé très tôt à tester sa population dès la fin janvier. C'est ici à Berlin que le tout premier test a été mis au point. Avec un mode d'emploi très clair, à grande échelle, on teste tous ceux qui pensent avoir des symptômes et aussi toutes les personnes avec lesquelles il y a eu contact. Ensuite, il faut savoir qu'en Allemagne, ce sont les médecins en ville qui font les petites analyses biologiques, comme les prises de sang, les analyses d'urine. Pas besoin d'aller dans un laboratoire ou à l'hôpital. Donc on a plus facilement accès aux points de test ici. Il suffit d'aller chez le médecin, c'est plus simple, surtout pour les personnes âgées. Ensuite, il faut analyser les échantillons et là encore, l'Allemagne avait de l'avance. Elle disposait avant la crise d'une centaine de machines nécessaires au traitement des échantillons. On appelle ça des plateformes. Et alors qu'il n'y en a que 900 sur toute la planète, l'Allemagne, à elle seule, en avait une centaine. En France, c'est une douzaine seulement. Et donc, ça va très vite dans les labos allemands et l'Allemagne compte même accélérer le rythme. La branche médicale du groupe Bosch a mis au point un nouveau test qui donne des résultats en 1h30, 2h. Il sera disponible la semaine prochaine et il va rendre tout le processus encore plus fluide. Les spécialistes pensent qu'on pourra ainsi réaliser 200 000 tests par jour.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1, l'Allemagne en avance et l'Allemagne qui recense à ce stade beaucoup moins de morts que la France, hein, 389 décès. En revanche, situation toujours très préoccupante en Espagne, plus de 800 morts à nouveau ces dernières 24 heures, plus de 7300 au total. Et en Italie, on a dépassé les 10 000 décès, 25 000 à l'échelle du continent européen. Ce soir, l'Europe regarde aussi d'un œil inquiet ce qui se passe en Hongrie, mais pour des raisons politiques. Le Premier ministre Viktor Orban est accusé de profiter du contexte pour étendre encore ses pouvoirs. L'état d'urgence a été décrété pour une durée indéterminée.
Il n'y aura pas de Jeux Olympiques cet été, c'est pas une surprise, hein, on le savait, mais on connaît maintenant la date précise de leur report. Ils s'ouvriront à Tokyo le 23 juillet 2021.
Oui, soit pile un an, quasiment jour pour jour, après la date qui était prévue. C'est tout le calendrier sportif qui du coup va devoir s'adapter. Les mondiaux d'athlétisme, par exemple, qui étaient prévus à l'été 2021, sont repoussés, eux, à 2022. Les championnats du monde de natation devront, eux aussi, changer de date. Et puis dans le foot, alors cela n'a rien à voir avec le confinement cette fois, mais certaines choses ne changent pas, comme la colère de Karim Benzema, qui s'en prend à nouveau à l'équipe de France, lui qui n'est plus convié depuis 5 ans maintenant. Règlement de compte cette fois avec Olivier Giroud sur les réseaux sociaux. Jean-François Pérez.
On a retenu juste quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui le karting. C'est ce que je pense et c'est la vérité et c'est comme ça.
On peut reprocher beaucoup de choses à Karim Benzema, mais pas celle de ne pas assumer ses propos. Comme ses amis rappeurs, l'attaquant ne crache pas sur un petit clash à l'occasion. Le succès est assuré, son public en redemande et voilà le travail. Cela lui permet de remettre une pièce dans le débat sans fin qui agite le foot français depuis sa non-sélection à l'Euro 2016 et la fameuse phrase « Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France », le joueur ayant oublié assez vite ses responsabilités de l'époque, les 12 matchs sans marquer le moindre but en sélection et l'affaire de la sextape pour laquelle il est toujours mis en examen. Depuis, Olivier Giroud est devenu un titulaire incontournable chez les Bleus malgré une carrière en club en pointillé, champion du monde, troisième buteur de l'histoire de l'équipe de France. La comparaison Formule 1-karting n'est donc pas très pertinente, sauf à prendre en considération des critères esthétiques, ce qu'a fait Benzema un peu plus tard dans la discussion d'hier.
Son style de jeu, il est bien pour l'équipe de France.
Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas.
Benzema, 32 ans, élément essentiel du Real Madrid, n'a jamais dit qu'il renonçait au bleu. Mais cet épisode désobligeant ressemble fort à une nouvelle sortie de route de la Formule 1 autoproclamée.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe. Ah, voilà, ça vole très haut.
Oh là là, ça, petit échange, mais alors savoureux. Merci beaucoup Sébastien, retour de l'info 18h30.
À tout à l'heure.
Et Anissa, du côté du temps, le ciel redevient, le temps redevient calme demain dans le sud. Hein.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui a été une journée très agitée. Hein. Dans le sud-ouest, les auditeurs se sont réveillés avec des chutes de neige assez importantes. Elles se sont atténuées dans la journée. Et bien demain, après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux, surtout sur le nord et le sud-ouest, et bien le temps est sec et ensoleillé sur quasiment l'ensemble du pays. Attention, sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse, nous aurons un régime d'averse qui va se mettre en place tout au long de la journée, avec même des chutes de neige à partir de 1500 mètres d'altitude. En Vendée, Champagne, Bourgogne, dans les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et la Bretagne, là c'est le vent de nord-est qui va souffler en rafale jusqu'à 80 km/h et puis il va se généraliser sur quasiment toute la moitié nord demain après-midi. Partout ailleurs, eh bien, le soleil est au rendez-vous. Nous aurons quelques petites gouttes sur la Côte d'Azur, mais rien de très inquiétant. Il fait beau quasiment partout demain. Les températures, elles sont encore froides à cause de ce vent de nord. Moins 2 à 2 degrés en général demain matin, jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, nous avons un redout dans le sud avec 18 degrés à Brive-la-Gaillarde, 17 à Périgueux et Agen, 15 à Nice, 14 à Lyon, 13 à Paris, 11 pour Strasbourg. Plus on monte, plus c'est frais. Hein. 11 à Lille et 10 à Dunkerque.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy, et votre invité dans un instant.
Oui, quelles mesures pour les petites et moyennes entreprises, pour les indépendants, quid du chômage partiel, mais aussi de la sécurité des salariés en contact en ce moment avec les clients. Le président de la Confédération des PME, François Asselin, mon invité dans une minute.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 reste à vos côtés dans cette crise sanitaire. On parle ce soir des petites entreprises, mais aussi des indépendants. Qu'est-ce que Bercy met en place pour eux? En ligne avec vous, Nathalie Lévy, François Asselin, le président de la Confédération des PME.
Bonsoir François Asselin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Ce matin, vous étiez en vision conférence avec Édouard Philippe, mais aussi les représentants du monde économique. L'objectif étant d'assurer la bonne continuité de l'approvisionnement en biens et services essentiels, c'est ce qu'annonçait Matignon. Au cours de ce rendez-vous, qu'avez-vous obtenu comme garantie, notamment pour ce qui est pour vous, je crois, une priorité, la protection des salariés?
Oui, vous savez, il y a le triptyque défendu par la CPME depuis le départ hein, de cette période épidémique, c'est protéger les salariés, protéger les chefs d'entreprise eux-mêmes et protéger l'entreprise en tant que personne morale. Quoi, voilà. Et sur ce triptyque, eh bien, on a longuement évoqué la situation des salariés où la première des responsabilités qui est la nôtre, c'est d'assurer leur santé et leur sécurité. Or, dans beaucoup de domaines, eh bien, nous manquons encore des éléments physiques pour les protéger. Et au-delà de ça, eh bien, il y a des secteurs où c'est tout à fait compliqué de reprendre l'activité parce que, de par la nature des gestes barrières, des mesures barrières à appliquer, c'est pas toujours compatible avec
alors,
les certains milieux professionnels.
Qu'est-ce qu'on vous garantit à ce stade, après plus de 15 jours de confinement?
On nous garantit pas grand-chose, sinon que les équipements de protection arrivent au fur et à mesure. Ça, on peut le comprendre, parce que le monde entier est en recherche de masques, la France comme les autres pays. Donc, ça arrivera au compte-gouttes, d'abord pour les personnels de santé, ça on le comprend très bien, mais après pour les autres actifs concernés, eh bien, nous espérons avoir le plus rapidement possible ces éléments de protection individuelle. Et au-delà de ça, eh bien, il y a le ministère du Travail qui travaille avec les différentes branches professionnelles sur des guides de bonnes pratiques pour essayer d'assurer un maximum de mesures barrières dans l'activité professionnelle des salariés. Alors ça, évidemment, c'est plus ou moins facile suivant les secteurs d'activité.
Oui, forcément. François Asselin, des mesures, et elles sont nombreuses, ont été annoncées pour les entreprises et pour les salariés depuis maintenant 15 jours à peu près. On ne va pas revenir sur l'ensemble, mais par exemple, les mesures de chômage partiel, bien sûr, les reports de cotisations sociales, faciliter les versements impôts sociétés, l'emprunt jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de cette situation extrême que nous vivons?
Les mesures initiales sont bien pensées, plutôt bien calibrées. Maintenant, vous savez, c'est pas tout de penser aux bonnes mesures et de bien les calibrer. Il faut qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient factuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
applicables, vous voulez dire?
applicable et que ça fonctionne. Il faut que l'intendance suive, c'est-à-dire que si votre dossier de demande de chômage partiel eh bien, arrive à un moment où ça coince parce que ce n'est pas le bon mot, la bonne virgule, au bon endroit, etc., eh bien, bien évidemment, ça met beaucoup de tension et beaucoup d'angoisse pour les petites et moyennes entreprises. Si votre demande de prêt garanti par l'État, eh bien, en retour, on vous demande une montagne de justificatifs et que ce ne soit pas aussi automatique que ce qu'on a pu l'annoncer, eh bien, ça va causer aussi d'immenses problèmes. Donc,
et là-dessus, est-ce que vous avez obtenu des réponses ? Est-ce que là, vous avez obtenu des réponses ? Vous avez mis en garde, j'imagine, le gouvernement. Que vous répond-il sur ce point, sur ce côté millefeuille administratif, en fait, qu'il faudrait épargner aux salariés, aux entreprises ?
Oui, ben, vous savez, déjà sur le champ social concernant la demande de prise en charge du chômage partiel, bien, vous savez qu'il y a un délai de rétroactivité, c'est-à-dire que quand bien même vous n'avez pas de réponse de l'administration, elle pourra revenir en arrière pour prendre effectivement votre réponse en compte. Par contre, c'est très disparate eh bien, d'une directe, à savoir la représentation de l'État en territoire, eh bien, c'est disparate d'un territoire, d'un département à un autre. Ce que nous aimerions, c'est que ça soit le plus fluide possible concernant tout ce qui touche la partie financière, le décalage des échéances d'emprunt ou le prêt garanti par l'État, eh bien là encore, ça dépend beaucoup de la bonne volonté des grands réseaux bancaires. Certains sont beaucoup plus fluides que d'autres. D'autres, malheureusement, eh bien, n'ont pas encore compris les enjeux qu'il y a autour de ça. C'est un rendez-vous hebdomadaire que j'ai avec Bruno Le Maire et puis le représentant des banques françaises pour faire en sorte qu'on remonte ces difficultés et qu'on les résolve le plus rapidement possible. Nous arrivons demain le 31. Il faut faire les échéances de fin de mois, les payes en premier. J'aime mieux vous dire que il y a beaucoup d'angoisse.
La CPME représente, François Asselin, aussi les artisans, les professions indépendantes, les toutes petites entreprises, les TPE. Comment ces mesures qui sont, vous l'avez dit, hein, compliquées, pas forcément hyper lisibles, et on va voir dans la pratique comment ça va se passer, vont-elles s'appliquer par exemple à un photographe indépendant ou à un ébéniste et à un hôtel de 40 chambres par exemple ? On n'est pas du tout dans la même dimension.
Non, vous le soulignez, vous avez des actifs, ils sont 3 millions dans notre pays, qu'on appelle des TNS, travailleurs non salariés. Et comme leur nom l'indique, ils n'ont pas de fiche de paie, ils n'ont pas de salaire, ce sont des indépendants. Donc effectivement, pour les soutenir eux personnellement, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a cette affaire de 1500 euros d'aide qu'ils peuvent avoir avec le fonds de solidarité, suivant différents critères. On peut les obtenir à partir du site impots.gouv.fr. Mais la CPME réfléchit pour aller au-delà et nous avons mobilisé, entre autres, les caisses complémentaires de retraite des indépendants pour voir si on ne pouvait pas faire un geste vers eux. Ce sont leurs cotisations, j'espère, dans les heures qui viennent, arriver à obtenir un satisfecit. Et nous sommes en négociation avec la tutelle de ces caisses complémentaires, avec la tutelle qui est Bercy, bien évidemment.
Oui, parce que là aussi, pour ce fonds de solidarité, c'est toujours bon de le rappeler, à 1500 euros, il faudra justifier énormément de points, notamment une baisse de vente de 50% et non plus 70% ajustée quand même, Bruno Le Maire, ce matin.
C'est sur le mois d'avril, mais sur le mois de mars, c'est bien une baisse de 70%. Or, beaucoup risquent de passer à côté de cette aide. Donc, nous avons demandé à ce que le gouvernement revoie sa copie. J'aurai en soirée Bruno Le Maire au téléphone. J'essaierai bien sûr d'obtenir gain de cause. Oui, il ne faut pas les oublier, ces indépendants, parce qu'au-delà de leur outil de travail qui est en train de leur glisser, de leur filer entre les doigts, il y a leur situation personnelle qui est aussi très délicate.
Vous l'avez dit, demain on est au 31 mars, François Asselin. Au niveau des cessations d'activité, sur 100 PME, selon vous, à ce stade, combien vont résister ?
Non, je préfère ne pas vous dire de chiffres. Ce qu'on peut tout simplement dire, c'est que celles qui ont déjà subi la vague des gilets jaunes, la vague des grèves de fin d'année, se retrouvent, attaquent cette période avec beaucoup de fragilité, et ça sera malheureusement extrêmement compliqué pour elles. Donc on ne veut surtout pas les oublier. J'ai demandé d'ailleurs à Bruno Le Maire qu'on étudie le cas de toutes les entreprises qui sont en tir de sauvegarde, pour pas qu'on les oublie dans les dispositifs, parce que là encore, pour elles, ce ne sera pas automatique. Donc il faut absolument soutenir l'économie, et toute l'économie, de la plus grande à la plus petite entreprise.
Mais vous n'avez pas une idée quand même en termes de pourcentage aujourd'hui ? On a une petite fourchette quand même ?
Vous savez, la sinistralité en temps normal était redescendue à moins de 60 000 cessations d'activité par an. Elle sera certainement beaucoup plus élevée que celle-ci à l'issue de cette période de crise.
Le double, vous pensez ?
Bon, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres parce que vous savez, c'est déjà tellement compliqué la situation qu'on vit actuellement. Faut tout simplement faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Alors évidemment, ça ne donne pas de statistiques, mais on aura bientôt une image de ce qui risque de se passer courant avril. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'échéance de fin de mois sera passée, pour celles qui n'auront pas pu l'honorer, eh bien, c'est direction malheureusement le tribunal de commerce.
Encore une question, bien sûr. On sait bien aujourd'hui que ce sont les PME, les TPE qui font tourner la France. Si on en perd allez, 30%, ça aura quoi comme impact pour le tissu économique du pays ?
Oh, catastrophique, c'est la moitié de l'emploi en France et puis c'est surtout de l'emploi territorial. Vous n'avez pas une commune en France qui n'a pas sa petite ou très petite entreprise. Donc autant vous dire qu'au-delà du risque économique, il y a un risque social et même un risque sociétal. Donc il faut absolument préserver ce tissu énorme, utile aussi bien pour les grandes entreprises, parce que beaucoup de grandes entreprises vont trouver des compétences dans ces petites entreprises qui sont souvent agiles, très innovantes. Donc l'enjeu économique est considérable, comme je vous dis, ça va au-delà de l'enjeu économique, c'est un enjeu de société.
Un enjeu de société, ce que vous nous dites François Asselin ce soir. Dans toute crise, évidemment, il y a ceux qui tirent en quelque sorte leur épingle du jeu, François Asselin. Quels sont les PME qui profitent aujourd'hui de cette période si particulière, celles qui s'en sortent aussi à peu près, et dans quel secteur elles vont le plus mal, si j'ose dire ?
On ne peut pas vraiment dire qu'il y a des gagnants et des perdants. C'est-à-dire, quand bien même vous êtes un secteur qui aujourd'hui est extrêmement sollicité, comme le secteur alimentaire, ouais. Eh bien, vous en avez qui vivent des périodes d'extrême tension, qui ont des refus de beaucoup de salariés pour venir au travail, tout simplement, et qui se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées pour tenir les deux bouts, quoi. Savoir servir les clients parce qu'il faut les alimenter et servir les salariés parce qu'ils n'ont pas ou ils ont peur de venir travailler. Vous avez des entreprises qui, elles, carrément ont baissé le rideau. C'était le cas, par exemple, pour tout ce qui est la restauration. Vous avez les traiteurs, l'événementiel. Ce sont, pour ces secteurs d'activité, eh bien, un coup d'arrêt brutal, comme dirait le Premier ministre, massif. Et la grande difficulté, c'est de se dire que lorsque ça repartira, eh bien, ça ne risque pas de repartir tout de suite non plus pour ces structures.
Donc là, vous ne croyez pas dans un redémarrage très offensif avec une reprise très forte parce qu'il y aura un besoin de consommer plus encore ?
Ah, d'abord, vous savez, le pouvoir d'achat des Français va être quand même entamé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous avez une grande partie des actifs qui sont chômage partiel, c'est d'abord 86% de la rémunération nette, donc c'est moins de pouvoir d'achat. Et puis vous avez beaucoup de travailleurs non salariés, des indépendants qui eux aussi eh bien, vont être impactés et là du coup vont se mettre en mode survie. Et puis vous savez, avant que ça redémarre, il faudra aussi s'habituer peut-être, il faudra remettre la machine en marche, ça ne se fera pas du jour au lendemain.
Merci beaucoup François Asselin de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre nos grandes voix, la chloroquine en question, la défiance des Français à l'égard de l'exécutif, le chômage partiel. On a besoin de décortiquer toute cette actualité avec nos spécialistes. Emmanuel Duteil pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique, Ève Roger pour les questions sociétales. Ils sont au rendez-vous, nous aussi, ça commence justement dans un instant.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et le rappel des titres signé Sébastien Krebs.
Une cargaison de 10 millions de masques de protection est arrivée aujourd'hui en France. Deuxième livraison depuis la Chine. Un cargo a atterri sur l'aéroport de Vatry en Champagne. Après l'Alsace, la Moselle, la directrice de l'hôpital de Metz-Thionville appelle à l'aide. Situation critique, quasiment plus de lits disponibles en réanimation. Elle demande à pouvoir transférer des patients. Le bac aura bien lieu, c'est ce qu'a assuré le ministre Jean-Michel Blanquer ce matin sur Europe 1. Mais sous quelle forme il y aura du contrôle continu ? Précision à venir dès le début du journal de 19h. Nous irons aussi aux États-Unis. Un navire hôpital militaire est arrivé à New York pour soulager les hôpitaux saturés. Un hôpital de campagne est aussi installé dans Central Park. En Grande-Bretagne, le prince Charles, qui avait été testé positif, est sorti de son confinement. Il est en bonne santé, annonce ses services. Le mondial de l'automobile, prévu en octobre à Paris, à son tour annulé, en tout cas dans sa forme habituelle, compte tenu de la crise qui touche le secteur. On connaît ce soir la date des futurs Jeux Olympiques de Tokyo. Ils s'ouvriront le 23 juillet 2021, soit un an, jour pour jour, après la date d'origine. Et puis, les Français scotchés devant la télé, effet du confinement. Vous avez regardé en moyenne le petit écran. 4h29 par jour au mois de mars. C'est un record. Les niveaux d'audience des journaux d'info formation de 20h sont notamment au plus haut.
Et merci Sébastien Krebs, on vous retrouve à 19h pour un journal radiophonique complet en direct.
Tout à l'heure.
Anissa, pas mal de brouillard demain matin ?
Oui, la journée va commencer avec des brouillards, des brumes, des nuages bas. Alors pour ceux qui sont obligés de sortir et obligés de prendre la route, demain il va falloir faire très attention sur les Ardennes, le Pas-de-Calais, la région parisienne, les Landes, dans toutes ces régions, voilà, il y aura pas mal de nuages bas. Et puis ils vont se dissiper au fil des heures pour laisser place au soleil. Il va faire globalement assez beau. Hein. Demain, nous aurons toujours sur le sud-ouest et puis le long de la Méditerranée quelques nuages qui viendront masquer le soleil, mais le temps reste sec demain. Sur la Corse, quelques petites averses sont possibles et puis la neige continue de tomber à partir de 1500 mètres d'altitude. Partout ailleurs, c'est du grand soleil accompagné du vent. Le vent qui souffle fort, même dans les terres, jusqu'à 80 km/h demain.
Europe 1.
Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et vous le savez, c'est une tradition entre 18h30 et 19h. C'est le débat des grandes voix qui nous permet tous les soirs de prendre du recul sur l'info du jour. Avec autour de vous et à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil en charge de l'économie. À Europe 1, vous pouvez bien sûr réagir, leur poser toutes vos questions dès maintenant au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Eh bien là encore, je suis ravie de vous retrouver pour démarrer cette semaine avec vous, avec beaucoup de questions sur chacun vos spécialités. On va commencer par sans doute le sujet qui fait le plus débat en ce moment, c'est l'hydroxychloroquine avec vous, donc Ève Roger. Ève, il y a pas mal de questions qui se posent encore une fois parce qu'il y a eu des conséquences dans certains cas, parce qu'une utilisation en forme d'automédication.
Alors, Nathalie, je ne suis pas sûre de vous entendre correctement.
Alors attendez, est-ce que vous m'entendez là,
Ève? Ça y est, je vous entends bien.
D'accord.
Ce que je voulais vous dire, vous m'avez posé une question ou je n'ai pas entendu?
Alors je vous ai posé une question. On parlait de l'hydroxychloroquine et qui fait débat évidemment depuis des jours. Et surtout sur cette automédication qui peut avoir des conséquences, on a pu d'ores et déjà le constater, avec de graves effets secondaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
C'est ce qu'on craignait, ce qui est arrivé.
C'est ça.
Finalement, c'est l'utilisation un peu en sauvage de ce médicament sans prescription médicale, sans suivi médical. Donc au fond, tous ceux qui ont crié un peu la semaine dernière, eh ben, ils avaient raison, parce que vous avez vu, il y avait un article du Monde qui était assez savoureux cet après-midi, si je peux m'exprimer ainsi, puisque on voyait bien que non seulement il y avait des gens qui rédigeaient eux-mêmes leurs propres ordonnances des patients, mais que des médecins eux-mêmes allaient dans les pharmacies. Il y en a un qui dit c'est pour ma femme, elle a du lupus ou de la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire que même les médecins sont devenus fous avec cette histoire. Donc ce que voulait pas le ministre de la Santé, c'était justement que les gens puissent faire une sorte d'auto-prescription, d'auto-médication, parce que justement, c'est un médicament qu'il faut que les patients soient suivis par des médecins, qui aient des examens sur les problèmes cardiaques, sur les antécédents. Donc c'est exactement ce qu'on craignait qui est arrivé aujourd'hui. Donc là, je peux vous dire que ce soir, l'Agence du médicament va faire un communiqué en disant qu'ils ont effectivement des remontées qui seront pas seulement de la Nouvelle-Aquitaine, mais de partout en France, et qu'il va falloir être extrêmement prudent, faire extrêmement attention, parce que pour l'instant, il n'y a pas de victimes graves, mais ça peut arriver.
Ouais, mais très difficile évidemment de rester raisonnable en cette période de grand stress et d'inquiétude. Il y a des tests encore qui sont développés. On aura à grande échelle, à plus grande échelle, cela a été commandé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. On aura les résultats quand?
Alors, moi, je suis très partagée sur l'histoire des résultats, parce que j'entends la ministre de la Recherche ce matin dire peut-être à la fin de cette semaine. Et moi, j'entends aussi Yazdan Pana, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat, qui dirige l'étude en France
conseil
qui s'appelle Discovery. Et lui, il dit pas avant un mois. Alors là aussi, on disait le temps des politiques et pas le temps des scientifiques. Ouais. Moi, je suis partagée, je ne saurais pas qui croire. Enfin, plutôt, j'aurais plutôt tendance à croire le scientifique que la politique. Mais peut-être qu'il y aura une ébauche de résultats d'ici la fin de la semaine. Mais c'est vrai que ça urge. C'est vrai que ça urge.
C'est vrai que ça
on ne peut pas aller plus vite que la musique.
Bien sûr. Mais en tout cas, gare à l'automédication, même pas gare à l'automédication.
Interdiction.
Enfin, en tout cas, interdisez-vous à vous-même, évidemment, l'automédication. Florian nous appelle de Nice. Bonsoir, Florian.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Florian, je crois que vous êtes soigné à l'hydroxychloroquine?
Oui, tout à fait. En fait, je suis
prescrite par votre médecin?
Par mon médecin traitant, oui.
D'accord.
En fait, je suis tombé malade, je pense, aux alentours du 10 mars. Donc, j'ai contracté.
Il y a 20 jours maintenant, oui.
Voilà, ce virus assez tôt. J'ai commencé, me suis rendu à l'hôpital, j'ai commencé par un traitement d'Doliprane antibiotique. Qui au bout de 48 heures ne donnait pas de résultats, et surtout avec des symptômes qui s'accéléraient très fortement. Donc j'avais des céphalées très fortes, une fièvre prédominante, et j'étais monté à 3 grammes de Doliprane par jour. et impossible de les baisser parce que si je les baissais, je dormais plus. Et mon médecin traitant m'a proposé de basculer sur un traitement qui associait plaquenil et azithromycine. Donc c'était un protocole sur 6 jours. Et là, j'ai aussi, en 48 heures, j'ai perdu le goût et l'odorat. Alors ça, c'était incompréhensible parce que, en plus, à l'époque, c'était pas dans les symptômes.
Dans les effets,
On l'a découvert un petit peu après, mais on avance vraiment à vue quand ça vous tombe dessus. Et puis les tests,
et
en plus,
coup,
à l'époque.
Et du coup, alors, sous l'effet de la chloroquine, enfin de l'association des deux composants,
En 48 heures, vous sentez que ça vous. En fait, vous êtes toute votre énergie aspirée. Vous démarrez la journée avec 20% d'énergie. Là, en 48 heures, vous sentez qu'il y a une sorte de rebond qui s'opère. Et vous recommencez à prendre, vous reprenez le dessus sur la maladie. Donc, en bout de 48 heures, je commençais à me sentir mieux. La respiration, c'était moins oppressé. J'avais des céphalées qui commençaient à s'estomper. Plus de frissons. La fièvre commençait à baisser parce qu'elle est prédominante. Elle ne bouge plus. Et j'ai pu arrêter le doliprane au bout de 4 jours.
D'accord. Et là, il n'y a pas eu de rechute. Vous êtes complètement soulagé aujourd'hui.
Il n'y a pas eu de rechute. Au bout de 6 jours, j'étais guéri, j'avais retrouvé le souffle, retrouvé mon énergie. Et aussi, également, j'ai eu aucun effet secondaire.
D'accord. Vous avez quel âge, Florian ?
Moi, j'ai 44 ans. D'accord. J'ai pas d'antécédent cardiaque.
Pas d'antécédent cardiaque, voilà. Toujours bon de le rappeler et d'être extrêmement vigilant. Voilà. Mais en tout cas, on entend votre témoignage, on entend que ça vous a soigné, en tout cas que ça vous a beaucoup aidé. Merci beaucoup de nous avoir contactés depuis Nice. Mais on le rappelle aussi, il ne faut pas utiliser l'hydroxychloroquine en médecine de ville parce qu'on va avoir des accidents et il y a beaucoup d'alertes en ce sens. Michaël Darmon, je vous demande pas d'enfiler la blouse blanche, mais c'est Marine Le Pen, en revanche, chez les politiques, qui prend fait et cause pour l'hydroxychloroquine. Et qui dit il faut y aller.
Oui, c'est-à-dire qu'elle, évidemment, elle a compris donc le potentiel politique. Hein, on l'a beaucoup pointé ces derniers jours, le potentiel politique de se raccrocher à une partie de l'opinion qui soutient le professeur Didier Raoult et le fait que justement ça puisse symboliser cette bataille du seul contre le système et de la médecine des élites contre le peuple qui n'a pas les mêmes accès ou les mêmes chances. Bon, tout cela, on voit bien que on comprend d'ailleurs en ce moment.
Ça s'appelle se surfer sur la crise.
Ça s'appelle faire de la politique. Ouais. Et, vous savez, en ce moment, l'exécutif est massif et il est présent, il est prépondérant. On ne veut entendre que lui et c'est très compliqué pour l'opposition de trouver des brèches, des aspérités où se raccrocher et faire un petit peu son métier, je dirais entre guillemets. Donc, pour l'instant, il y a ce positionnement-là.
Rien ne soulève, juste du positionnement. On va revenir sur le gouvernement.
Mais c'est pas anodin non plus, voilà, parce que on se souvient que pendant les Gilets jaunes, le positionnement de Marine Le Pen a été quand même payant. Pour elle,
exactement. Hein. Alors je reviens vers vous dans une seconde, Emmanuel Duteil. On a appris aujourd'hui que. Alors, on va commencer par ça, mais on a beaucoup de sujets économiques, évidemment, à voir avec vous. Le salon de l'automobile, c'est pas rien, il est tout simplement annulé. Il n'est pas reporté, hein. Il aurait dû avoir lieu. Attention, à la rentrée pourtant, hein. Il est
mais effectivement,
plus,
c'est un symbole. Il aurait dû avoir lieu au mois d'octobre. Il a lieu une année sur deux à Paris. L'autre année, c'est en Allemagne. Et jusque-là, c'était à Francfort que ce salon se tenait. Alors, pourquoi il est annulé? Eh bien, tout simplement parce que l'industrie automobile est à genoux. Il faut voir que l'industrie automobile vit peut-être l'une des plus graves crises de son histoire. C'est-à-dire que c'est pire que 2008 parce que là, on est complètement à l'arrêt. C'est même pas l'idée qu'on n'achète pas beaucoup de voitures. On achète pas du tout de voiture. Donc le salon de l'automobile, qui était déjà un salon qui se posait beaucoup de questions quant à son positionnement, qui essayait de se réinventer, parce que le concept même des salons ne marchait plus. Mais ben là, cette crise a balayé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rendez-vous de l'automobile à Paris au mois d'octobre. Pour le moment, ces organisateurs disent qu'ils annulent la manifestation en l'état, mais qu'ils essayent de repenser à quelque chose qui pourrait prendre une autre forme. Alors, quelle sera cette forme? Ça, pour le moment, on n'a pas encore vraiment d'indication dessus, mais ça envoie vraiment plusieurs messages. Un, que la crise va être longue et très longue pour certains secteurs qui sont mis à genoux aujourd'hui. Et c'est l'exemple de l'automobile qui est véritablement aujourd'hui en grande difficulté.
Ève Roger, je voudrais regarder avec vous, non pas les tests sur la chloroquine, parce que vous nous avez dit votre prudence aussi sur les résultats, avec des dates qui divergent selon les sources. là où on a une date a priori et c'est la fin de la semaine, ce serait pour les premiers effets du confinement. Là, chez nous, en France, ça fait plus de 15 jours maintenant. Normalement, à la fin de la semaine, on a quelques chiffres.
Ça fera 15 jours demain exactement, puisqu'on a commencé mardi et 17 à midi.
C'était pas le dimanche,
donc,
c'était mardi.
Les scientifiques s'accordent à dire qu'il faut compter entre 15 jours et 3 semaines. Donc c'est à compter de cette fin de semaine, qu'on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça veut dire qu'on va regarder de très près le nombre de patients admis en réanimation et ainsi que le nombre de morts, parce que ça va être les deux indicateurs, parce que le nombre de cas, on sait très bien qu'entre les dépistages ici et là... Les politiques différentes, c'est pas très représentatif. Et c'est donc plutôt la réanimation. Et donc il faut faire très attention parce que en ce moment j'ai l'impression qu'il y a une petite musique qui dit attention, on va bientôt atteindre le pic. Moi je crois pas. Le pic, on en est encore loin parce que même le Grand Est n'a pas encore passé son pic. L'Île-de-France, ça sera pas avant la semaine prochaine. Donc il faut penser à la France entière. Le pic, il faut que ça soit sur l'ensemble de la France. Il faut que les régions, elles passent toutes par ce même scénario qui commence par une vague de patients dans la réanimation, le pic, et puis après comme disent les scientifiques, un très joli mot, une défervescence. Ouais. Donc ça, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que à partir de demain, c'est-à-dire que vous êtes, si vous tombez malade après demain, donc après mardi, c'est que vous êtes tombé malade pendant le confinement. Donc ça sera déjà une certitude. Et comme le confinement au départ n'a pas été très très bien tenu, on s'en souvient, c'est possible aussi que ça décale encore un peu les effets du confinement. Mais on va y arriver. Hein. Moi, je suis pas défaitiste. Oui, mais je crois qu'il faut être très prudent aussi. C'est pas demain, quoi. Il faut continuer. Vous avez entendu dans le journal de 18h cette directrice de CHU à Metz, Thionville, elle est encore dans la panique. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore, quoi.
On n'y est pas encore et loin du compte, évidemment. On a entendu Jean-Michel Blanquer, qui était ce matin aussi le ministre de l'Éducation nationale, l'invité de Sonia Mabrouk. On va y revenir avec vous, Mickaël Darmon, à ses propos dans un petit instant. Restez avec nous, les grandes voix. À tout de suite sur Europe 1 39-21.
h45 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous à distance. Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et toutes vos questions, toutes vos réactions en direct au 39-21. Tous les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur, je vous le rappelle. Et puis vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Emmanuel Duteil, une petite question là ce soir sur le chômage partiel, parce que si le compte est bon, on est actuellement à une demande de chômage partiel pour plus de 2 millions de salariés, 220 000 entreprises qui ont demandé d'avoir recours à ce système, à ce chômage partiel. Mais tout va pas si bien dans cette organisation.
Alors, c'est pas que tout va pas si bien, c'est-à-dire que je vois bien le derrière de votre question, Nathalie. C'est que le dispositif marche parce que le but de ce dispositif, c'est de permettre aux entreprises de survivre en gardant les compétences et en mettant le moins de gens possible au chômage. Ça fonctionne. Mais je sens la perfidie dans votre question et je pense que vous vouliez me faire dire qu'il y en a certains qui ne respectent pas tout à fait l'esprit. L'esprit, c'est
d'autant
quoi ?
D'autant que j'ai eu des cas pratiques, pardonnez-moi, mais dans mon entourage proche, où effectivement, le salarié est mis en chômage partiel par son patron, sauf qu'en fait, on lui demande de faire du télétravail.
Et vous avez totalement raison. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même faire très attention. C'est très marginal. C'est-à-dire que la quasi-totalité des entreprises qui mettent leurs collaborateurs au chômage partiel, c'est qu'ils sont dans une situation cataclysmique. Vous savez, quand vous êtes un petit patron et que vous devez fermer la clé et que vous mettez tout le monde au chômage partiel, je peux dire, ça vous prend aux tripes. Donc, ceux qui trichent sont une minorité. Mais effectivement, dans mon entourage aussi, on a des remontées de gens qui disent, j'ai été mis, je vais vous donner un cas, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai été mis au chômage partiel à mi-temps, mais on me demande de travailler plus qu'un mi-temps, de travailler quasiment totalement en télétravail. Donc oui, ça existe.
Alors, pardonnez-moi, je prolonge ma question, mais que peut faire le salarié dans ce cas ?
Alors, le salarié, il peut faire quelque chose de très simple, puisque le ministère du Travail vient cet après-midi même de rappeler les règles, et il appelle les salariés concernés à en appeler directement en direction régionale de l'emploi, c'est ce qu'on appelle les directs, et on les appelle directement à dénoncer ces comportements, parce qu'il faut savoir que ce que risque le chef d'entreprise est énorme. Il risque déjà dans un premier temps de devoir rembourser la totalité des sommes perçues, c'est quand même le moins qu'on puisse espérer. Mais ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Et il y a également le fait qu'il n'aurait pas la possibilité d'avoir, sur une durée maximale de 5 ans, des aides pour l'emploi. Donc,
sauf que quid du retour de bâton pour le salarié ?
Ah, le salarié, il y est pour rien. Lui, on lui a imposé à travailler, encore heureux.
Non, mais j'entends par là.
Il a doublement tapé sur le collaborateur. Ouais. Déjà qu'il a dû travailler alors qu'il n'avait pas à travailler. Non, quand même, il y a une justice dans ce monde. Hein. Donc, c'est pour le chef d'entreprise que ça risque d'être très grave. Mais il faut croire que le ministère du Travail commence à avoir quelques remontées. Et je pense qu'ils le font aussi, ce rappel à la loi, pour une autre raison. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il fallait une autorisation pour pouvoir se mettre en chômage partiel. Et Muriel Pénicaud, sur l'antenne d'Europe 1, il paraît que c'est une très bonne radio, est venue annoncer la semaine dernière que maintenant, on faisait la demande. Et si sous 48 heures, vous n'aviez pas de réponse, c'est que c'était automatiquement accepté. Et que les équipes du ministère vérifieraient après coup. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense qu'ils se disent, ils ont tellement levé les barrières, qu'ils se disent, il va y en avoir quelques-uns. On reste français, même dans une période de crise. Donc, il y en a quelques-uns qui vont contrevenir à la loi.
Système, comme on dit.
Voilà.
Anissa, vous avez une question sur Twitter, je crois, sur le sujet.
Oui, pour Emmanuel Dutheil, effectivement.
Avec sa petite rose qui court derrière, on l'entend.
Une question de Christophe avec le hashtag Radio Ouverte. En cas de chômage partiel, qui touche l'indemnité? Est-ce que c'est le salarié ou est-ce que c'est l'employeur?
Eh bien, c'est le salarié qui touche l'indemnité au sens strict parce que c'est lui qui va être payé directement par l'État, même si lui ne s'en rend pas véritablement compte. Mais c'est donc quand même bien l'État qui prend en charge son salaire. Je vous rappelle, chômage partiel, 70% du salaire brut, 84% du salaire net.
Exactement. Alors, Michael Darmon, on la voit chaque jour dans les différentes enquêtes d'opinion et puis on n'a pas besoin d'attendre les enquêtes d'opinion pour... papa, dit Rose à Emmanuel Dutheil, pour voir monter la défiance vis-à-vis du gouvernement. Encore une nouvelle baisse dans cette nouveau sondage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reprend en main les ministres, comme la semaine dernière, Sibeth Ndiaye en tête, par exemple, ou même Jean-Michel Blanquer, mais encore.
Écoutez, déjà, on a vu, il faudra attendre quelques jours pour voir si la grande opération de nettoyage et de pédagogie, nettoyage des messages, de recadrage des ministres et de pédagogie très importante qu'a faite donc le Premier ministre avec le ministre de la Santé ce week-end, et bien si ça infuse, comme on dit, parce que on a bien vu que tout le fait d'avoir cette longue séance presque, on pourrait dire, de Covid pour les nuls, mais qui était très au fond utile aussi pour beaucoup, de reprendre tout depuis le départ avec toutes les questions, toutes les polémiques, sans éviter aucun sujet, et bien c'est en fait de nature à recadrer les messages, parce que comme vous l'avez dit la semaine dernière, c'était très chaotique. On voit bien, et je réagissais d'ailleurs en écoutant aussi tout à l'heure Eve qui disait, le Frédéric Vidal dit plutôt mois de mai, alors qu'en réalité pour les tests, elle entend plutôt plus tard. Eh bien, une fois de plus, il y a cette tentation des ministres et de l'exécutif de faire un peu comme le mono de la colo, vous savez, on est en randonnée, on en a marre de marcher quand on est gamin, et toutes les 30 secondes, il vous dit on est arrivé, ça y est, on est arrivé, alors qu'il sait parfaitement qu'on n'est pas arrivé.
C'est pour ça,
on est dans cette logique-là.
Oui, c'est ça. Alors justement, Michael, c'est pour ça que, par exemple, ce matin, Jean-Michel Blanquer, au micro de Sonia Mabrouk et Mathieu Béliard sur Europe 1, a dit pour une rentrée scolaire au 4 mai, ce qu'il avait avancé peut-être de manière un peu vive ou un peu empressée il y a 15 jours de cela, disons qu'il a été sur ses gardes.
Il a répété que c'était le scénario sur lequel il travaillait.
Le scénario le plus optimiste.
Voilà, c'est le scénario optimiste, c'est mon souhait, j'aimerais bien, c'est l'hypothèse de travail. Donc il a jamais dit non, il a pas démenti, mais il aimerait bien, il tend, parce qu'au fond on lui a dit c'est ça, mais il faut pas le dire. Il a été d'ailleurs, au fond, l'information effectivement de ce matin, c'était aussi que il a validé le fait qu'il aurait une partie de contrôle continu dans le bac. Donc ça, c'était aussi tout intéressant. On sent bien qu'il y a cette grande difficulté parce qu'il y a cette crainte de voir que les Français n'arrivent pas à être embarqués par l'action du gouvernement. Ils sont en défiance. Ils ne comprennent pas. Je pense qu'une fois de plus, le triptyque masque, gel, test sera en permanence celui qui fera qui sera la grille de lecture de l'opinion des Français et du public vis-à-vis du gouvernement. Et c'est pas facile. D'autant plus que maintenant, il y a un peu le début du questionnement. Alors voilà, cette semaine, on l'a appris, Édouard Philippe va se rendre devant la mission parlementaire de l'Assemblée nationale créée par Gérard Ferrand. Donc ça n'est pas une commission d'enquête avec l'attention que ça suppose. Mais on sent bien que il est il faut absolument que l'exécutif s'explique le plus possible, ouais. Parce qu'il y a un problème, il y a un déficit de crédibilité dans les explications et dans la transmission des informations au public.
Voilà, exactement. Alors, cette défiance, ces doutes, cette inquiétude des Français, elle est d'autant plus justifiée que quand on regarde en dehors de nos frontières, nos voisins, Ève Roger, eh bien, on se dit, mais on y arrive en Allemagne avec les tests, par exemple. On y arrive aussi avec nos voisins suédois, un des rares pays d'Europe non confinés. Est-ce que vous avez une explication? Racontez-nous un peu comment ils s'organisent.
La défiance, elle est valable là-bas aussi, parce qu'ils disent, mais pourquoi tout le monde est confiné et pas nous?
Et pas nous.
Donc en réalité, c'est le même type de défiance dans l'autre sens. Et je pense qu'on verra à l'arrivée qui avait raison, mais ça, c'est un peu difficile à dire. Donc là, effectivement, ils ne sont pas confinés. Ils ont juste des recommandations. Alors, ils ont le droit de... Il y a 10 millions d'habitants en Suède, donc ils ont le droit de... Il faut limiter les déplacements. Les personnes de moins de 70 ans, on leur demande de ne pas sortir. Mais par exemple, les lycées, les universités sont fermées, mais les crèches, les collèges et les écoles sont ouvertes. Alors j'imagine en France que ça ferait si on disait il y a une partie des écoles qui est fermée et une autre partie qui est ouverte. Les bars et les restaurants restent ouverts. En même temps, on demande de garder la distanciation sociale. Donc ils sont fondés sur quelque chose qui ressemble au civisme, en disant les Suédois sont civiques, ils vont respecter, parce qu'ils ne veulent pas cet impact sur l'économie qui est si tragique chez nous.
Il faut quand même dire que c'est 10 millions d'habitants.
Décrit tous les soirs. Voilà,
bien
c'est
sûr,
ça.
C'est 10 millions d'habitants en Suède contre... C'est 7 fois moins d'habitants que la France. Hein,
c'est vrai.
Avec à ce jour, où pratiquement on est à 8 morts au décompte.
Alors, il y en a beaucoup plus en Suède en réalité, c'est parce que maintenant les chiffres aussi augmentent pareil. Ah. C'est exactement la même histoire dans tous les pays. On est à 3000 cas et plus de 100 morts. Donc c'est vrai que là, la tension commence à monter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se demande, mais est-ce qu'on ne devrait pas être confiné complètement? Mais on ne sait pas si c'est un choix politique, stratégie politique ou économique. Là-bas, c'est l'agence, comme si c'était la Santé publique France, l'équivalent, qui s'appelle l'agence de santé publique, qui décide de la politique. Et les politiques obéissent à l'agence sanitaire. Ils n'ont pas les mains libres pour décider. Donc c'est un autre fonctionnement, mais effectivement la défiance elle est là-bas aussi, en demandant est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie. Donc franchement c'est quasiment le seul pays européen avec les Pays-Bas à ne pas être confiné, et il faudra vraiment qu'on regarde les résultats à l'arrivée, parce qu'ils visent, vous savez, ce qu'on appelle cette immunité collective. Ouais. Si le virus circule un peu partout, et ben à la sortie de l'épidémie, tout le monde sera immunisé ou une grande partie, et il n'y aura pas une deuxième vague. Et c'est vrai qu'on parlait de Jean-Michel Blanquer le 4 mai, il y a quand même immensément cette crainte de la deuxième vague et de la reprise
Michael
du virus si on sort trop vite.
Ouais. Michael Darmon sur nos voisins.
Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Eve, parce qu'il y a la Norvège également qui est dans un confinement, semi-confinement. Donc, et en fait, c'est à chaque fois, ça a été dit, mais je pense que c'est intéressant de pointer la différence. C'est aussi lié au logiciel socioculturel, c'est-à-dire que la capacité d'intégrer des consignes pour l'intérêt général, pour le terrain public, pour un petit peu la société dans ces pays, de par leur système culturel. Eh bien, est beaucoup plus élaboré, est beaucoup plus puissant et ancré qu'en France. C'est pas uniquement de la discipline, c'est aussi un rapport totalement différent à l'intérêt général que nous sommes en train d'apprendre par de la force des circonstances, nous. Hein. Mais regardez combien de temps il a fallu pour accepter les conseillers. Il y a encore, avec très certainement, des manifestations ici ou là de gens qui contestent. Mais on comprend aussi pourquoi il y a une forme de confiance générale dans ces pays du Nord, de l'Europe, parce que il y a déjà une approche globale sur le rapport à l'intérêt général, le rapport à la place publique.
À la place publique. Ouais. Emmanuel Dutheil, un mot encore, une question qui va peut-être en soulager certains. Les contrôles fiscaux ont été suspendus aujourd'hui, tout comme le recouvrement forcé. Hein. C'est une décision inédite, non ?
Alors c'est une décision, oui, sûrement inédite, et c'est vrai que là encore, hein, c'est quelque chose de très symbolique, c'est pour montrer qu'en cette période, on ne veut pas embêter plus que de raison ceux qui sont au travail. Donc c'est une décision très importante, et bruissent en ce moment, même si du côté du ministère de l'Action et des Comptes Publics, on ne veut en rien confirmer, mais bruissent pour le moment qu'on pourrait peut-être même décaler aussi la déclaration de revenus. Vous savez, il faut quand même continuer à faire nos déclarations de revenus, donc... Ils travaillent aussi là-dessus, mais là encore, on est sur du domaine du symbole, puisqu'à la rigueur, les contrôles fiscaux en ce moment, mais c'est vraiment pour l'idée de dire, on vous fait confiance dans cette période extrêmement importante. Et vous le savez peut-être pas, Nathalie, mais j'ai par ailleurs une petite passion pour les rois et les reines, et je voulais quand même signifier que pour la Suède, pour la Suède, la famille royale, et c'est peut-être ça le plus efficace, a montré qu'elle était quasi confinée, puisqu'ils ont montré qu'ils travaillaient en télétravail hier sur leur page Instagram, que ce soit le roi Carl VI Gustave de Suède et sa femme, mais également les enfants ont tous montré qu'ils étaient au travail, en télétravail, hier.
D'accord.
Voilà.
Bon. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci. Merci à Rose d'avoir participé à notre discussion ce soir. Mais oui, on adore. Elle est la bienvenue. Merci à vous trois. On se retrouve demain avec votre pédagogie, vos informations, votre éclairage, toujours agréable de vous retrouver. Salut à vous. Belle soirée. Merci.
Et votre grand journal du soir
se poursuit,
Nathalie Lévy.
Bonsoir, Mickaël. Et oui, on se retrouve dans une petite seconde avec le journal de 19h de Sébastien Krebs. Nos enfants reprendront-ils l'école le 4 mai? On en parlait à l'instant. Jean-Michel Blanquer n'a pas été évidemment formel ce matin dans la matinale d'Europe 1. Il était en tout cas ce lundi à notre micro. Vous l'entendrez dans le journal de Sébastien Krebs. À tout de suite.